pas exactement une société de frugalité, mais disons l'homme frugal qui est seul capable de vivre dans cette société. Car de même que la société de consommation produit, si j'ose dire, l'homo consumens, de même, une société de frugalité doit être en accord avec un individu ou une personne de base qui serait l'homo frugalis. J'y vais donc, je commence par les quelques lignes idéologiques de la publicité, de l'idéologie de la consommation, en tant qu'elle pousse à consommer et donc en tant qu'elle pousse la croissance. Premier élément idéologique, la mythologie du progrès qu'on n'arrête pas, qui prend deux formes, entre autres. Une première forme, c'est « tout changement est un progrès, aucun progrès ne saurait se faire par le changement ». Il faut donc prêcher en permanence cette idée que nous devons toujours changer, qu'il faut toujours changer de produits et donc les renouveler. Exemple, votre téléphone va changer de numéro, alors changez de téléphone. Renouveler, c'est rester jeune. Interdit de vieillir.
Je m'excuse, je suis vraiment désolée d'interrompre, mais il y a un message apparemment très urgent pour Mme Marie Cressens-Ngobo qui doit rappeler tout de suite quelqu'un, donc on a le numéro, et qu'elle s'adresse à une personne, à cette personne à la sortie de la salle. Excusez-moi.
Je t'en prie.
Je me demande si elle est au restaurant.
Au restaurant. Je reprends. Donc, premier trait de la mythologie du progrès qu'on n'arrête pas, le changement pour le changement. Deuxième trait, le toujours mieux qui sert de prétexte à un toujours plus. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Nous avons complètement confondu, cette société confond, qualité et quantité. Et le qualitatif, le toujours mieux, est toujours le prétexte d'une augmentation du quantitatif. Le résultat, bien entendu, c'est qu'on met dans l'esprit des gens, dans notre esprit, l'idée que une consommation peut être illimitée puisqu'on va toujours pouvoir trouver le meilleur produit, de meilleure qualité, le produit le plus propre, le produit le plus écolo, etc., etc. Tout ce toujours mieux se traduit par un toujours plus. Deuxième élément de l'idéologie de la consommation, on en a parlé ce matin, la suractivation du besoin. Du besoin de besoin, de l'envie d'envie. Du désir de désir au pluriel. C'est le cas particulier, et naturellement avec l'idée que ceci est dans la nature même de l'être humain. C'est le cas particulier de l'asexualisation des produits qui nous donne le sentiment qu'ils sont naturellement désirables. C'est le cas général de l'ensemble des publicités qui font semblant de répondre à nos besoins pour nous faire croire que nous les avons. On en a parlé tout à l'heure. Ce faisant, elle pose l'axiome épouvantable selon lequel tout besoin est un droit. J'ai entendu un publicitaire qui disait que l'homme a besoin d'être manipulé. Donc, il est bon qu'il y ait des publicitaires pour le manipuler. L'homme a besoin de violer. Donc, il est bon qu'il y ait des personnes qui se fassent violer. L'enfant a besoin d'être pédophilisé. Donc, il faut que, etc. Vous avez cet argument-là, que je caricature, mais qui est toujours présent. Résultat pratique, cette suractivation des besoins aboutit à deux impasses. Saturés, nous sommes comblés de besoins satisfaits qui ne nous satisfont pas, qui nous laissent dans la satisfaction. Nous sommes saturés, nos envies n'existent même plus, il faut relancer notre consommation. Et j'ai ce slogan de Parly 2 qui dit « Je n'ai d'envie que si l'on m'en donne ». Deuxième élément, quand ça n'est pas la saturation, c'est la frustration. Frustré matériellement, puisqu'il y a toujours de nouveaux produits qui répondent toujours mieux à nos désirs, frustré immatériellement, parce que nos aspirations profondes, en étant réduites à des besoins, ne peuvent pas être satisfaites à ce niveau-là. Et ça, c'est pratiquement toujours cela. Mais bien entendu, les marchands sont contents, la frustration est motrice, et si par hasard vous résistiez à cette frustration, il y a un troisième trait publicitaire qui revient toujours, que j'appelle le consensus terrorisant, c'est-à-dire le mimétisme collectif. Pour relancer la vie individuelle, Il est important, naturellement, de nous dire tout le temps que le monde fait comme cela, que le monde rêve de cette consommation, que l'époque est à tel ou tel produit, qu'il faut mimer ce grand mythe, etc. Slogan de la Redoute en juin 2003, « À quoi allez-vous ressembler cet été ?» Avec, naturellement, une image de mannequin. C'est même pas à qui, c'est à quoi. Il faut donc mimer. Qu'un agrégat d'individus qui consomme en masse puisse passer pour une consommation consensuelle, c'est quelque chose d'assez paradoxal, mais que je n'en reviens pas. Car, bien entendu, la consommation de masse n'empêche pas l'individu de rester parfaitement individualiste. Alors, bien entendu, au sein de la foule qui se croit libre de consommer, de désirer les consommations, chacun oublie naturellement que sa libération apparente cache une servitude profonde aux puissances de l'industrie, de la technique ou de la marchandisation. Citation, « Tant qu'à subir la publicité, autant l'aimer. » Le monde s'accélère, comment s'y préparer? Quand je suis dans une voiture et qu'elle s'accélère toute seule, je freine. Ce slogan nous dit, le monde s'accélère, c'est inéluctable, comment s'y préparer? Conduite de servitude. Dans cette abondance, naturellement, chacun oublie combien son gaspillage personnel engendre de pillages collectifs. Quatrième élément, qui revient toujours dans l'idéologie publicitaire, le culte du produit, le produit héros. Le produit résout tous les problèmes, aucun problème ne saurait être résolu sans le produit. C'est la plus terrible des dépendances. Alors, vous avez donc une loi publicitaire qui s'effectue pas simplement au niveau des marchandises sur le plan matériel, mais qui s'étend à tout ce qui est de l'ordre de la valeur. Vous avez comme cela le rêve produit par des spectacles, je le consomme, je n'ai plus qu'à cultiver mon propre imaginaire dans le sens de la publicité, la beauté produite par des produits de beauté, la santé produite, l'amour produit, la plupart des baisers s'achètent au monoprix, la démocratie produite par le consensus publicitaire, la révolution produite par le nouvel homo, le règne des marques qui appelle hypocritement chacun naturellement à devenir individuellement la marque que portent tous ses camarades. Ma crème, c'est tout moi. Shopee, tout un état d'esprit pour vous guider vers les produits qui vous ressemblent. Tout est consommable, tout est produit, tout est asservissement à la seule consommation au nom du bonheur. Cinquième point, un bonheur programmé, dont la carotte et le bâton. Toutes les lignes de force dont je viens de parler, naturellement, débouchent sur un programme de bonheur. Résumons, quel bonheur? Celui d'un plaisir sans fin, comme on parle d'une vis sans fin. Un plaisir de l'instant, toujours instantané, un plaisir émietté, donc répétitif, un plaisir anonyme, programmé par la pub, un plaisir oubli dans le vertige de l'instant, pense à ce que tu bois, écoute ta soif, laissez vos sens prendre le pouvoir, un plaisir insatiable puisque toujours menacé de finir, un plaisir idéal donc, puisqu'il faut le renouveler au rythme même de la production et de l'innovation industrielle. Le plaisir, c'est de changer de plaisir. Mais voilà, lorsque le bonheur est placé dans l'intensité du présent régi par le produit, comme l'instant chasse l'instant, il faut que le produit chasse le produit, et tout de suite, sous peine de mort du plaisir. L'instant est lui-même vécu comme un produit, et ce qui caractérise cet étrange produit qu'est l'instant, le moment fort, c'est que sa date de péremption coïncide avec son apparition. Ce bonheur est donc tel que vous êtes happé par l'instant que vous voulez happer. C'est ça la consommation de soi qui devient consommation de soi. C'est alors qu'on n'est jamais si bien asservi que par soi-même. Bonheur tragique, mais qu'importe, les marchands veillent. Pour mieux vous faire oublier la question du sens, ils vous placent dans la cadence, le rythme effréné de la consommation, de ses rites et de ses fêtes. La société de consommation fait oublier le tragique de la consommation en accélérant le rythme de la consommation, de même que la croissance économique fait oublier les ravages de la croissance en appelant toujours à plus de croissance. C'est logique. Sixième point, un nouvel instinct, ce que j'appelle la pulsion consommatrice. Consommer, c'est consumer. Mais la très forte liaison qui est établie par les publicités entre la consommation proprement dite, d'une part, et toutes les images de la vie, toutes les valeurs sociales, fait de la pulsion consommatrice l'unique forme de relation que va tisser l'enfant consommateur avec les réalités qui l'entourent. À 3 ans, on consomme le produit comme un monde. À 30 ans, on consomme le monde comme un produit. L'idéologie de la consommation se généralise aux images qui lui sont liées, aux spectacles médiatiques, aux stars qui se produisent, aux événements, aux journalistes qui les mettent en scène, aux politiciens qui soignent leur look, etc., etc. Tout cela sur le mode de la gloutonnerie des yeux, de la boulimie de rythme, dans une sorte d'insatiable dévoration des choses et des êtres, mot d'ordre, croquer la vie à pleines dents. Ce n'est pas là simplement un schéma abstrait, c'est un impératif, c'est une pulsion. Elle est instinctuelle, compulsive, viscérale, elle réclame sa dose à toute heure, dans une sorte d'impatience chronique, elle est d'autant plus violente que fatalement frustrée, elle proclame toujours « je le veux, je me l'offre », violence possessive donc des sociétés industrielles sur toutes les richesses de la planète, violence de l'individu formé à l'image de ces sociétés à l'égard des pays du reste du monde, de leurs ressources et de leurs travailleurs. Dernier point, septième point de l'idéologie publicitaire, la destruction des valeurs. Bien sûr, qu'est-ce qui pourrait freiner cette rage consommatrice, sinon les grandes valeurs humanistes dont je reparlerai tout à l'heure. Ces valeurs humaines tendent toutes à la maîtrise, à la mesure, à la modération et au partage. Eh bien, la rhétorique publicitaire, naturellement, va traiter ces valeurs de la manière suivante. Un, elle les récupère, elle met toutes ces images sous-entendues de valorisation dans les produits, faisant croire qu'une consommation de signes va pouvoir équivaloir à une pratique des valeurs. Elle récupère, ensuite elle falsifie, elle se sert d'un certain nombre de valeurs qu'elle inverse complètement, du genre « quand on aime, on ne compte pas », prononcé par un mangeur de saucisses, du genre « révolutionnez vos placements », du genre « la vitesse s'est dépassée ». Mais l'idée de dépassement qui vient de l'idéologie de la vitesse ne saurait s'appliquer à la vitesse elle-même. Troisième point de la façon dont les valeurs sont détruites, l'élimination purement et simplement. Donc c'est l'hédonisme sans entrave, c'est le refus, bien sûr, des vertus jugées archaïques, c'est la poursuite de ses propres désirs sans fin, sinon on est coincé, l'obligation de suivre les modes, il faut être de son temps, l'impossibilité de s'adonner à une vie intérieure, c'est un combat d'arrière-garde, ou il faut au contraire s'exhiber, toujours. C'est un bonheur qui a besoin d'être exhibé, se manifester par le port des marques, se vivre soi-même comme image de marque. C'est alors, naturellement, que l'aliénation publicitaire triomphe. C'est cette trait de l'idéologie publicitaire, je suis à 10 minutes, c'est très bien, ne sont évidemment pas séparables. Ils forment un tout, ils forment un système. Ce système correspond assez parfaitement à l'espèce d'individu aliéné et infantile que décrit Marcuse dans l'homme unidimensionnel. Et justement, cet homo consumens, c'est exactement la même chose, est quelqu'un qui n'a plus d'aptitude critique que pour faire des choix illusoires entre des produits qui sont faussement distincts. C'est cela à quoi le modèle aboutit. Ce modèle, nous devons le fuir donc dans sa globalité. Et le fuir dans sa globalité, ça conduit justement au contraire de la société de consommation qui est une société de frugalité. Je vais donc reprendre ces sept traits idéologiques pour les inverser en disant des choses qui vont être joyeusement archaïques, si bien d'ailleurs que mon épouse, en lisant mon texte, m'a dit « tu vas te faire tabasser ». Eh bien, j'assume. Premier élément, contre l'idéologie du progrès, réhabilitons l'immobilisme. L'homme a besoin d'enracinement, on ne s'encaissine pas sur l'asphalte. Réhabilitez l'immobilisme, et si vous trouvez que c'est un peu statique, faisons machine arrière, si la machine accepte. Ce qui est très important, c'est contre le suivisme ambiant, de rappeler que la tradition est motrice, et souvent plus que motrice, que l'innovation apparente est le plus souvent répétition du même, que l'hypermobilité, liée à la gabegie des transports, n'a rien à voir avec le mouvement, qu'il n'y a rien de plus dynamique qu'un arbre qui prépare ses fruits au cours de l'hiver. Et finalement, il est toujours progressiste d'être en retard dans la mauvaise voie. C'est cela même, l'idée de décroissance tempérée, ou si l'on préfère, l'objectif d'une aisance partagée, car la frugalité n'est pas la pénurie. Donc, au bougisme, parce que c'est le bougisme actuel, qui pousse à ne jamais se contenter d'un produit, d'un lieu ou d'un partenaire, ou d'une partenaire, il est bon d'apposer d'abord la force de l'inertie. Car l'inertie est une force. Dans toutes nos activités quotidiennes, notamment celles qui se rapportent à l'économie domestique, une bonne règle est de ne jamais changer que ce qui a vraiment besoin de l'être. Et donc de conserver tout ce qui est vieux et qui fonctionne encore. Haïssons la mode du jetable si nous ne voulons pas être un jour jetés à notre tour. Préférons le vieil objet fiable aux nouveaux produits sophistiqués. Rappelons-nous Montesquieu, le mieux est le plus souvent l'ennemi du bien. L'abus d'une bonne chose est une mauvaise chose. C'est le cas de la consommation. En particulier, prenons garde au piège que représentent les cadeaux. Quand on fait des cadeaux, parce qu'on offre, on n'a pas le sentiment d'être égoïste, mais on alimente de façon éhontée la surconsommation. La seule voie aujourd'hui du consommer mieux, à mon sens, c'est de consommer moins, même si c'est au service d'autrui. Deuxième élément, idéologique, ça va. Contre le besoin de besoin, bien sûr, réapprendre, bien tout simplement, le désir. Le désir dans son émergence profonde. Le désir dans sa limitation nécessaire. Le premier principe, alors là je rejoins ce qui a été dit ce matin, est toujours de se demander quels sont réellement mes besoins, quels sont mes désirs, et d'analyser la façon dont le monde moderne trompe mes vrais désirs en les maquillant en faux besoins. Alors ça c'est tout un programme personnel, mais je voudrais rappeler quand même que, de même que la plupart des envies que nous nommons des besoins ne sont pas d'une absolue nécessité, de même, ils n'ont pas à être considérés comme des droits en tant que tels. D'autre part, nos besoins ou nos désirs sont souvent contradictoires. On ne peut pas à la fois désirer faire et faire faire, être soi et être comme tout le monde, profiter de la consommation à bas prix et fustiger les salaires dérisoires des exploités du tiers-monde, vouloir tout tout de suite, impossible. Le tout de suite fait partie du tout. Vouloir tout tout de suite, c'est enfermer le tout dans sa partie. Ça n'est pas possible. Être libre, c'est-à-dire sans dépendance excessive, et accepter les multiples dépendances du tout achat dans lequel nous sommes. Ou encore, pour une nation, être autosuffisante et en même temps dépendre de ses échanges avec des nations plus puissantes. C'est donc l'idéologie du commerce, dans la logique, comme fin en soi qui est à combattre. Retrouver le désir, c'est aussi le retrouver dans la conscience de ses limites. C'est cela, justement, la frugalité. Cela demande d'avoir perpétuellement à l'esprit ce que coûte d'efforts et de peines la satisfaction du moindre de mes besoins, y compris le plus naturel, et à plus forte raison du moindre de mes désirs, sachant que l'humanité existe autour de moi, sachant que je dois refuser tout ce qui, pour mon plaisir, même le plus licite, contribue à l'injustice et au malheur d'autrui. Ça, c'est important. Retrouver le désir dans sa modération, c'est enfin savoir échapper à l'impatience de l'envie, qui nie toujours l'insertion du désir dans le temps. Comme le montre le fameux épisode que vous connaissez peut-être, du petit prince de Saint-Exupéry qui rencontre un marchand qui a inventé des pilules contre la soif. Il dit, chaque fois qu'on a soif, on prend une pilule, ça évite de boire, et on gagne 53 minutes par semaine. Le petit prince répond, moi, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. À cette époque-là, elle n'était pas polluée. Troisième point, contre le consensus terrorisant, savoir dire non. Non à l'oppression du groupe, non à l'intériorisation des envies anonymes qu'il suscite en nous. Face à ce qui nous détruit, il est positif de négativer. Non au sophisme de l'inéluctable que le discours réaliste, économique, prêche pour anesthésier nos résistances. Refuser non seulement les modes passagères, mais le principe même de leur coercition. Désacraliser les rites sociaux devenus de simples prétextes commerciaux. Freiner le dévergondage des consommations. Se faire joyeusement le rabat-joie de l'euphorie publicitaire. Abominer les promotions prétextes et les soldes bidons. L'appât isolé de chaque marchandise contribuant toujours au piège général du système. Résister au mimétisme collectif dans sa famille, en soi, autour de soi, fuir tous les engouements de type love story, télévisé ou non, tous les rassemblements de nature fanatique, qu'ils soient sportifs ou musicaux, et qui poussent à l'éclatement ou à l'infantilisation de soi. Se souvenir de la formule de Sénèque, la preuve du pire, c'est la foule, pas l'assemblée. Bien entendu, cette attitude morale exige de l'énergie morale. On disait autrefois de la grandeur d'âme. On peut rigoler. Si l'on est montré du doigt, et nous le sommes, et nous le serons, il faut savoir opposer le rire de Panurge à la risée du troupeau. Si l'on est taxé d'archaïsme, et nous le sommes, il faut se souvenir combien c'est la peur d'être anormal qui inspire aux terroristes de la modernité l'injure suprême « Vous menez un combat d'arrière-garde ». Eh bien oui, nous menons un combat d'arrière-garde. Et ce combat d'arrière-garde se trouve être un combat d'avenir pour la raison suivante. Quand une armée est engagée dans une impasse, il faut bien que tôt ou tard elle fasse demi-tour, et alors là, l'arrière-garde se trouve être aux avant-postes. Contre le culte du produit, désacraliser bien sûr le produit héros et repolitiser l'acte de consommer. Le produit n'est jamais une fin en soi, il n'est jamais qu'un moyen, une forme substantielle de service rendu par des hommes à d'autres hommes. Il n'y a donc pas à le célébrer en tant que tel, encore moins à en rêver et à y enfermer sa vie. Chaque fois qu'on le peut, préférons la solution naturelle qui dépend de nous à la solution produit qui nous a servi. De même, quand nous sommes amenés à consommer, ça arrive, rappelons-nous que l'acte de consommer n'est jamais isolé. Il ne se limite jamais à lui-même. Il implique toujours une chaîne de relations humaines, sociopolitiques autant qu'économiques. Il peut aider à vivre certains comme il peut détruire des communautés entières. Réhumaniser le produit, c'est aussi faire prendre conscience en aval de ce que peuvent avoir comme conséquences redoutables les sous-produits du produit. La société de consommation est une société de déjection. Faire le plein nécessite de faire le vide. Quand on observe ce qui est jeté dans nos poubelles, on peut affirmer que nos déchetteries nous accusent. A l'inverse, l'homme frugal ne fait du produit ni la gloire d'un jour, ni le rebut du lendemain. Il le respecte simplement comme le fruit d'un travail ou une matière première offerte par la nature. Il récupère ce qui peut l'être, il conserve ce qui peut encore servir, il répare, il reprise, il fait des économies de bout de chandelle, comme le disait ma grand-mère. Et j'ai tout un tas de dictons de ma grand-mère, donc je trouve bon. Non pas dans le sens d'une économie avaricieuse, ça peut toujours servir aux autres. Ça peut toujours servir au maintien de la planète dans un état satisfaisant, et ainsi de suite. Donc c'est en fait des objectifs qui sont désintéressés et altruistes. Contre le bonheur conforme, cinquième point, oser vivre des joies qui ne se voient pas, ça paraît bizarre, ou qui ne semblent pas conformes. Ne plus craindre les interprétations du type « comment t'as pas encore tel objet ?»« comment tu n'as pas encore vu tel film ?» etc., etc. Oser le cérébral contre le viscéral. C'est difficile, là. Bon. Mais, comme le disait Horace, oser la sagesse. Horace, c'est lui qui avait dit le fameux Carpe Diem. Il dit aussi, oser la sagesse. C'est quand même intéressant. Jouer l'intériorité contre l'exhibition. Refuser la fausse convivialité des ruées consommatrices. Sortir de l'économisme domestique et du règne de la marchandise. Savoir que ce que l'on fait lentement de ses mains est le plus souvent préférable à ce qu'on achète compulsivement. Se déconditionner de l'impatience du tout de suite, qui aboutit toujours à instrumentaliser les autres. Savoir vivre avec des problèmes non résolus. Et non solubles dans la consommation. Quitter souvent les horizons même du consumérisme militant, car ça peut encore être une aliénation que d'être obsédé par la recherche sans fin du mieux consommé. Réapprendre la gratuité des échanges, être sceptique devant toute promesse de bonheur qui puisse venir d'autre chose que du sens, ce sens pouvant être d'ailleurs la création d'un plaisir valable, comme notre ami gastronome ne le dira tout à l'heure. Accepter les manques inévitables de notre condition sans les vivre comme des frustrations intolérables. Alors là, ça va être difficile, car la frugalité à l'échelon planétaire Oh non, deux minutes quand même. Car la frugalité à l'échelon planétaire obligera au grand partage. Et si l'Occident cesse d'externaliser le labeur et la peine, il faudra bien qu'il en reprenne sa part. Et nous serons alors conduits à retrouver un savoir-vivre collectif de la privation, si possible équitable, sachant que toute peine peut être joyeuse quand elle est solidaire. Là, vous ne tabassez pas, là, c'est le seul... Je n'ai plus que 10 minutes. Bon. Contre la pulsion consommatrice et le rétablissement des valeurs, vous vous inquiétez quand même que je prenne encore 4 minutes. Bon. Éradiquer ou assagir la pulsion consommatrice, c'est le plus difficile, parce que nos modes de vie l'ont ancré en nous. Nous sommes dévorés par le besoin de dévorer. Donc, dans un premier temps, ne pas entretenir la pulsion consommatrice dans l'ordre des marchandises. Plus d'esprit shopping, plus de culte de la grande surface, plus de lèche-vitrine des rues piétonnières, plus de vertige des promotions rituelles, plus de délectation morbide devant les catalogues de vente par correspondance. Dans un second temps, refuser la pulsion consommatrice dans l'ordre médiatique. Dans la façon, sous prétexte d'information, on se repaît de nouvelles, de faits divers, d'événements, de documents spectacles, de spectacles produits, bref, de toutes ces formes de consommation de signes censées animer la cité, alors qu'elles ne font que divertir, au sens pascalien, le citoyen. Adieu la TV dog. Drogue, pardon. Et dog aussi. Fondamentalement, c'est à une reconquête du temps personnel que nous sommes confrontés. Retrouver un temps qualitatif. Qui cultive la lenteur? Qui cultive la contemplation? Qui est libéré de la pensée du produit? Vivre un temps qui a du sens sans l'argent, sans la vitesse, sans les trépidations de l'envie. Savoir être inutile pour rester disponible à tout ce qui n'est pas utilitaire. Et ainsi, retrouver l'art de cueillir le temps présent, carpe diem, en l'ouvrant à toutes les dimensions corporelles, corporelles, personnelles, collectives, esthétiques, spirituelles, d'une existence humaine. Dernier point, vous permettez, contre l'extinction des valeurs, remettre au premier plan, bien sûr, les valeurs humanistes, affirmer leur primauté sur tout autre objectif, notamment technique ou économique. Ne pas appeler, par exemple, à la consommation pour sauvegarder la croissance, ce qui pousse à l'égocentrisme sous prétexte de solidarité. Ces valeurs personnelles, bon, je vous les rappelle brièvement, c'est la conscience de soi, la volonté de lucidité, y compris sur ses propres présupposés idéologiques. C'est le courage d'être libre, le seul qui conduit à ne pas asservir les autres. C'est la modération, c'est l'injustice, le sens constant de la justice qui exige de lutter contre tout ordre politique qui ne se fonde pas sur la solidarité. Et enfin, la culture de l'intériorité. Bon, je ne développe pas, mais je voudrais simplement, avant de terminer, faire deux remarques. D'abord, tout ce que je viens de dire là n'est pas nouveau, et c'est justement pour cela qu'il faut le répéter. C'est ce qu'a produit notre humanisme. C'est ce qui a abouti à la déclaration des devoirs et des droits de l'homme. C'est l'héritage culturel qui l'a perpétué jusqu'à nous. Et deuxième remarque, au cœur de cet humanisme, il y a toujours, que l'on prenne la tradition gréco-latine ou la tradition judéo-chrétienne, il y a toujours l'idée que l'appartenance de tout homme à l'humanité n'est pas simplement d'ordre matériel, mais qu'elle est d'ordre spirituel. Que l'humanité est présente en tout homme. Ce qui fonde l'éthique même, l'éthique universelle et autonome qui doit primer sur tout le reste. La tradition gréco-latine et la tradition judéo-chrétienne convergent vers ce sentiment de solidarité et de, si j'ose dire, communauté spirituelle de l'humanité dans son ensemble. Alors je vais reprendre quelques phrases que vous connaissez tous. Tu aimeras bien sûr ton prochain comme toi-même. Ne te dérobe pas à ton semblable, dont la version originale serait « Ne te dérobe pas à ta propre chair, l'autre c'est toi ». Cette phrase aussi de Grégoire le Grand, « Si tu possèdes une deuxième paire de chaussures et qu'un pauvre va nu-pied, tu n'as pas à la lui donner, mais à la lui rendre ». Côté gréco-latin, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Plus près de nous, la bruyère, il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères. Kant, conduis-toi de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta personne, aussi bien que dans la personne d'autrui, comme une fin et jamais comme un moyen. Saint-Exupéry, être homme, c'est précisément être responsable, c'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. Sartre, chaque homme est responsable de tous les hommes. Alors, ma petite conclusion, c'est simplement celle-ci, que je ne décris pas du tout ce que serait la structure d'une société sous égalité, ni les moyens d'y parvenir, j'en suis bien incapable, mais simplement, elle ne pourrait fonctionner qu'à partir de cette idée de l'homme, l'homo frugalis, si vous voulez, qui, à l'opposé de l'homme unidimensionnel de Marcuse, est précisément un homme pluridimensionnel. C'est celui qu'une société de frugalité a besoin naturellement de posséder en elle-même pour vivre, et c'est en même temps celui qu'elle produira si on respecte ses lignes d'action.